La belle ses ondes.
La belle ses ondes.
C'est sur Radio La.
Radio La.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans La belle ses ondes, notre émission qui tend l'oreille sur le pays de Dieulfi Bourdeau et ses initiatives culturelles, sociales, solidaires et alimentaires riches et nombreuses, particulièrement en cet été 2023. C'est Marin au micro aujourd'hui, vous nous écoutez sur le 106.6 FM à Dieulfi et sur l'appli Radio La partout ailleurs. Merci d'écouter nos ondes associatives. Aujourd'hui, résilience alimentaire, rendez-vous festif et coulis de tomates. Et oui, nous parlons bien de tomates sur Radio La ce matin à l'occasion d'un nouvel événement à Dieulfi, la fête de la tomate, un rendez-vous qui se tiendra le samedi 26 août au Parc de la Baume, au programme des échanges, des ateliers, des stands et une soirée concert notamment avec la comédienne et cinéaste Colline Serrault, qui clôturera cet après-midi consacré à la tomate, mais pas seulement, à la production agricole locale, à la résilience alimentaire, au circuit court, et puis à tout ce dont nos invités du jour vont nous parler. Nous sommes avec Françoise Hoffmann et Mangal de l'association Arborescence, donc toute jeune association dulfitoise à l'initiative de cet événement. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être pour commencer, une question très simple. Pourquoi avoir proposé un événement festif le samedi 26 août, donc autour de la tomate?
Oui, vas-y.
Eh bien, pourquoi pas? Ouais, donc, on voulait fêter notre association, mais on s'est dit que si on mettait fête d'arborescence, ça n'allait pas être très drôle. Donc, on s'est dit, pourquoi pas fête de la tomate? Parce qu'on rejoint l'agriculture locale, la tomate c'est aussi une plante qui se décline sous plein de variétés anciennes. Elle a toute sa place au mois d'août en fait. Elle est belle, elle est ronde, elle est appétissante.
J'ai dit événement festif, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est ouais. Un événement qui a pour objectif, Mangal, de parler de la production agricole locale et comme le dit l'affiche de cet événement, local et vivrière. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Voilà. Alors nous, ce qui nous semblait important, pourquoi Arborescence a créé un événement de rencontre avec débat, c'est tout simplement parce que il nous semble que de créer du lien entre les producteurs et même les transformateurs, parce qu'il y aura un meunier le meunier de Monarque qui va venir et qui va présenter ce qu'il fait, c'est de créer un lien et des dialogues et des débats entre les consommateurs et les producteurs afin que le consommateur puisse appréhender les difficultés que rencontrent les paysans d'une manière générale. Et particulièrement les agriculteurs, plutôt les paysans, qui sont en circuit long. Parce que le circuit long est assez déséquilibré en termes de rapport de force.
Ah, peut-être rappelez-nous ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas.
Oui, le circuit long, voilà. Alors les circuits longs, c'est-à-dire qu'ici, il y a beaucoup d'agriculteurs qui vendent directement dans les marchés ou qui vendent à travers champs libres, ou des AMAP un peu plus loin. Mm-hmm. Et ceux-là ont résolu le problème. En fin de compte, ils ont un lien direct avec les consommateurs. Et même eux nous disent que finalement, même s'ils ont un contact direct, les consommateurs n'ont pas connaissance de leurs difficultés parce que l'agriculture, ce n'est pas du tout l'industrie où on produit de façon linéaire quelque chose. L'agriculture est tributaire de la nature et de tous les cycles assez capricieux de la nature, les variations de récolte en fonction de l'eau, des insectes, etc. Et puis, mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est les circuits longs, c'est quoi? Ce sont des paysans qui passent des contrats avec des coopératives ou des grossistes et ces contrats sont assez contraignants. C'est-à-dire que ça peut aller très loin. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails, parce que ça, vous l'entendrez.
Ce dont il va être question lors de cette fête de la tomate le 26 août, ça c'est ce que vous venez de dire. Par exemple, c'est un aperçu des débats, de ce qui va être échangé et dit lors de cet après-midi, donc de ce samedi 26 août.
Oui.
L'idée, c'est donc qu'il y aura L'idée, c'est d'inviter tous les habitantes et les habitants, les consommateurs ou consommatrices, entre guillemets, de produits agricoles, et de favoriser donc la rencontre avec des productrices et des producteurs du territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, voilà. Alors, favoriser les rencontres, ce n'est pas juste une rencontre festive. C'est-à-dire qu'on va mettre à plat sur la table les difficultés que rencontrent les paysans. Et on pourrait rentrer dans les détails, mais vous l'entendrez. Mais par exemple, on a un seul producteur de lait dans le sud de Rome qui fait du lait bio de qualité et qui se trouve dans une situation assez étrange. C'est-à-dire que nous consommons tous dans la sud de Rome du lait ou des sous-produits laitiers, et lui produit, mais ne peut pas vendre, et ne vend pas sur le local. Il est obligé de vendre en circuit long, et son lait part...
À l'exportation, notamment.
Oui, ou dans d'autres régions. Et là, ça, c'est le cas flagrant d'une situation que nous, citoyens, devons prendre en charge, au moins déjà commencer à comprendre et savoir comment on peut faire pour que ces paysans en circuit long puissent retourner en circuit court. Voilà.
Consommer, acheter des légumes, même par exemple bio, de proximité, avec des productrices et des producteurs qui se saisissent de ces questions, ça ne suffit pas, Françoise Hoffmann. Ça suppose également de comme disait Mangal, de comprendre ce qui se joue derrière et d'en discuter avec les intéressés,
Tout
les personnes qui produisent.
Nous ne sommes pas que des consommateurs, nous devrions tous être des consomme-acteurs. Ça serait beaucoup plus réfléchi. Et c'est vrai que l'agriculture, c'est un système fragile. À Dieu le fit, c'est vrai, on a un superbe marché. On pense que ça peut durer longtemps comme ça. Mais rien n'est établi, rien n'est assuré pour le long terme. Les difficultés, elles peuvent venir des semences, de l'énergie, de l'eau. Les agriculteurs, ils doivent faire face à tous ces aléas. Et quand on achète notre petite salade, il faut qu'on réfléchisse beaucoup plus avant sur comment elle est arrivée là et est-ce qu'elle peut en continuer d'arriver facilement chez nous. Et c'est vrai que c'est dommage qu'en bio, la grande majorité de ce qui est produit ici est exporté et la majorité de ce qu'on consomme, nous, est importé. Donc on parle de faire attention à tout, de ne pas gaspiller, de l'énergie inutilement et tout, mais là on est en pleine contradiction parce qu'on devrait justement consommer beaucoup plus local. Mais après, c'est à chacun de s'interpeller sur ce qu'est l'agriculture et l'envers du décor, parce qu'à chaque ferme, derrière chaque porte de ferme, il y a plein de problèmes administratifs, humains, il y a beaucoup de suicides dans le monde agricole. C'est vrai que le facteur humain, faut vraiment, c'est tellement important. Faut vraiment se poser la question et s'imaginer ce que peut être l'envers du décor.
Humaniser, peut-être politiser nos assiettes, c'est ce que j'entends en tout cas dans ce que vous dites. Qui seront les humains justement qui seront derrière les stands et les ateliers, en dehors de vous-même, de cette jeune association Arborescence, et puis des habitantes et des habitants qui viendront, qui sont les invités peut-être précisément.
Alors, pour les débats, les invités, il y a Vincent Delmas qui est l'ancien porte-parole de la Confédération paysanne, et qui est maintenant inscrit au niveau national, donc il connaît très bien le sujet. Et il y a le monsieur Ortail qui lui a le moulin de
Mornan,
oui.
Le moulin de Mornan.
Oui, le moulin de Mornan, et qui lui, va témoigner des grandes difficultés à poursuivre son activité, alors qu'elle est indispensable pour le secteur. Parce que le problème, c'est que la tendance économique et politique de notre pays, c'est de grossir les activités, de grossir les fermes, de grossir l'industrie et de tout, que ces consortiums rachètent tout et qu'on n'ait plus affaire qu'à des grosses multinationales dans lesquelles le rapport de force est complètement déséquilibré. C'est-à-dire que nous, en tant que consommateurs, on n'aura plus le choix, quoi. Voilà. On sera obligé de manger accepter des insectes dans les farines, etc. Alors que nous, la notion de qualité est extrêmement importante.
C'est pour tendre vers cette résilience, cette autonomie alimentaire. Alors c'est peut-être préciser exactement est-ce que c'est des termes que vous parliez de sémantique tout à l'heure, notamment de agriculture locale et vivrière. Donc c'est des termes que vous avez choisis. Mmh. Est-ce que résilience, autonomie alimentaire, ça vous convient? On sait que l'autonomie alimentaire, c'est aussi un élément de langage qui est utilisé par le gouvernement, notamment pour alors, avec la relocalisation, ce genre de choses, mais pas forcément en faveur d'une agriculture défendue par, j'ai l'impression, votre type d'événement, ou ce que défend la Confédération paysanne, notamment.
Ouais. C'est-à-dire, on est dans la guerre des mots. En fin de compte, l'utilisation du mot résilience et le mot relocalisation est usurpée. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas ça qui se passe. Ce n'est pas du tout ça. Et nous, on utilise un mot qui nous semble important, c'est vivrière. C'est d'abord parce que la racine du mot vivrière, c'est vivre. Mmh. Donc, c'est un mot que moi j'utilise. Pourquoi ? Parce qu'en Afrique, ils parlent d'agriculture vivrière. C'est-à-dire que retrouver au moins les bases de la survie ensemble. C'est-à-dire qu'ensemble, collectivement, on se charge de vivre. Après, qu'on importe d'autres régions ou de l'industrie des choses dont on a besoin, c'est une chose. Mais au moins, la base, c'est vivre ici et que tout le monde puisse vivre. Que tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de gens qui meurent de faim ou qui ne mangent pas à leur faim pour des raisons de économiques ou capitalistes, libérales, que vous voulez.
Voilà. Rendre ces ressources vivrières accessibles
au plus grand nombre, tout simplement.
Ouais. Peut-être pour revenir sur la fête de la tomate du samedi 26 août, il va être question de ces débats. Donc le rendez-vous est donné à 14h. L'après-midi va commencer par des échanges de ce type et des ateliers. Alors qui animera ces débats? Est-ce que ce sera des tables rondes où chacune ou chacun pourra se saisir de questions un peu de manière libre, ou est-ce que vous avez prévu des temps spécifiques
On a un ami qui a une formation d'agronome et qui connaît beaucoup le décor et l'envers du décor et qui va animer justement les débats et nous aider à cheminer dans tout l'après-midi avec les intervenants.
Oui. Oui, c'est Marc Trouillou, c'est ingénieur agronome, il est paysan depuis 40 ans. Mmh. Donc il a la double casquette, c'est-à-dire c'est un excellent technicien et il connaît la vie de paysan réel, quoi. Et en plus il était le président de Nature et Progrès, l'ancien label qui a été remplacé par AB. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien et qui est très soucieux de cette problématique des paysans. Et lui, il va faire une introduction où il va vraiment décortiquer toute la problématique et où on peut agir, nous, en tant que consommateurs.
Voilà. Mmh. Il nous a beaucoup aidé à cheminer, justement, depuis un an, dans notre réflexion. Depuis qu'on l'a rencontré, on bénéficie de son analyse des choses. C'est très pertinent. Donc, il nous aide beaucoup et il aura vraiment son rôle à jouer à la fête de la tomate.
J'ai lu aussi qu'il avait écrit dans votre revue, dont on parlera tout à l'heure, que vous proposez également autour de l'alimentation locale, mais pas seulement. Sur le territoire. Alors j'ai vu qu'il y a des producteurs aussi de Marsanne, de tomates justement, qui seront présents, Christophe et Émilien Hugon. Ils vont venir également parler de leurs pratiques agricoles.
C'est pas sûr qu'ils viennent parce qu'ils sont en pleine récolte de tomates.
D'accord.
Donc voilà.
Ça a évolué depuis. Ça a évolué depuis. Un petit peu changé. Voilà. D'accord. Voilà.
Mais on va proposer leurs tomates.
Oui. Leurs tomates, dans tous les cas, seront leurs coulis de tomates. Ouais. Allez-y, Mangal.
On va proposer leurs tomates. Oui, voilà, c'est tout. Non, je n'avais rien à dire. Allez-y.
Non, je ne sais pas si peut-être d'autres... j'avais lu, c'est peut-être des informations qui ne sont plus d'actualité, mais qu'il y avait aussi peut-être un apiculteur et un oui. vigneron qui seront présents
oui.
Autour de stands. Alors, j'imagine, pour présenter, pour faire goûter leurs produits, mais aussi
mais
et surtout
seulement.
Pour parler de leur métier, de leurs difficultés,
voilà.
comme vous
tout
dites.
À fait.
Parce que, voilà, la tomate, c'est, on ne va pas dire que c'est un prétexte, mais c'est,
oui.
l'idée, c'est de parler de manière générale, de pas d'une seule production, et notamment de la production maraîchère, qui a ses propres
ouais.
problématiques, évidemment, mais de manière plus globale.
Oui.
J'imagine qu'un maraîcher ou une maraîchère, un vigneron ou une vigneronne, ou des éleveurs, éleveuses, peuvent traverser des problématiques qui vous touchent tout autant.
Oui. Alors, la problématique est totalement différente, parce que maraîcher, maraîchage... C'est pas le secteur le plus touché.
Mmh.
Le secteur le plus touché, ce sont l'élevage.
Touché par l'exportation dont vous parlez,
oui,
le fait de produire en local, mais pas de consommer local.
L'avantage du maraîchage, c'est que c'est un produit frais qui ne supporte pas tellement le transport. Donc, ça au moins, les salades, etc., sont produits plus ou moins localement. Et surtout, c'est que le maraîchage demande beaucoup moins d'investissement que les céréaliers ou les éleveurs. C'est-à-dire un maraîcher peut commencer avec un investissement assez mince. Je ne veux pas rentrer dans les chiffres, hein. Alors que le moindre tracteur coûte 250 000 euros, etc. Quoi. Les gros tracteurs pour labourer, pour travailler. Et donc, eux se trouvent confrontés à des rentabilités beaucoup plus exigeantes parce qu'ils ont des charges fixes beaucoup plus élevées et ils ne peuvent pas supporter d'avoir des baisses de production ou des baisses de tarifs, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a ils sont un peu pris dans on va pas rentrer trop dans les détails parce que d'abord parce que je suis pas un expert de la situation. Moi, je ne pourrais relater que ce qui m'a été dit et je ne donnerai qu'une pâle copie de ce qui m'a été raconté aux agriculteurs. Je préfère que eux parlent vraiment de leurs conditions directement. Voilà.
Très bien. Je vous propose de... Il fait un petit peu chaud dans le studio de radio là aujourd'hui. Je vous propose de faire une petite
ouais.
pause musicale et d'hydratation également. On écoute Renaud avec une chanson qui s'appelle Les Tomates. Alors, je ne sais pas s'il faut venir du Nord pour peut-être comprendre les paroles, parce que cette chanson est chantée en ch'ti. Je vous laisse la découvrir tout de suite. Et puis, on se retrouve juste après pour continuer à parler de la fête de la tomate et de l'association Arborescence. À tout de suite sur Radio là.
C'est un pauvre garçon qui chapelot et le monde, qui est au décoron du côté de Fouquières. Il y en a vaut assez, après ses journées, d'aller travailler d'un gardien de Saint-Père. Pour s'en échapper, il se dit je vais me marier, ça a été vite fait. Il est au poids vilain, allez taupe belote, un petit peu lolote, mais pour la popote, elle n'y connaît chaud rien. Il mangeait les tomates, les tomates, les tomates. Et son garçon, il savait bien qu'il est tout marqué par le destin. Mais il se disait, pour se faire une raison, j'aurais pu être la saison des melons.
Chalvaux arrivé, il a tout plaqué. Il s'en est allé pour trouver le bonheur. Chez ta Carpentras, qu'un jour il trouva quelque chose qui est au proche, un métier de mineur. Dans ces pays-là, un réclame des bras. Faut dire que je sais pas le boulot qu'il est eu. Du matin au soir, comme un vrai bagnard, il est au sud trimard, il n'en pouvait plus.
Il porte des tomates, des tomates, des tomates. Et je pense garçon, il savait bien qui est au marqué par le destin. Mais il se disait pour se faire une raison, j'aurais pu être la saison des melons.
Il a vaut ma foi un bio filet de voix. Alors c'est pour ça qu'il voulut canter. Il a pris des canchons, juste un accordéon, des micro-sillons, ça le faisait rêver. Iveo déjà, Paris, l'Olympia, un blash en sultan, Johnny Hallyday. Mais le jour qui canta d'un vieux cinéma, alors y arrivage qui de vaut arriver.
Les tomates, les chevaux garçons, ils savent bien, qui est tout marqué par le destin. Mais ils se disent pour se faire une raison, j'aurais pu être la saison des melons.
À toutes les misères qu'il a eues sur terre, y a pas pu s'y faire, y a pas résisté. Et chez ta fouquière, tout près de son grand-père, dans le vieux cimetière qu'il est enterré. Chez par amitié, l'autre jour en asmé, des belles chiottes pincées, il est j'aime autant. Quand t'en es retourné, deux, trois mois après, on est tous restés comme de ronflants.
Ils poussent des tomates. Les chevaux garçons, ils savent bien, j'ai tout marqué par le destin. Mais un petit jour pour se faire une raison, j'aurais pu être la saison des melons.
Les tomates de Renaud. Nous sommes toujours avec Mangal et Françoise Hoffmann de l'association Arborescence, jeune association dieulfitoise qui organise un événement ce samedi 26 août, la fête de la tomate au parc de la Baume à Dieulfi, un événement pour tous les habitantes et les habitants qui souhaitent discuter de d'autonomie alimentaire et puis de ce qui se passe dans leur assiette, notamment au niveau politique avec des productrices et des producteurs notamment. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé pour le moment, c'est peut-être l'aspect un petit peu festif de la soirée. Donc il y a un repas qui va être pris en commun, si j'ai bien compris, suivi d'un concert chanté par Colline Serrault notamment. Comment est-ce que ça s'est fait cette rencontre avec... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, mais si. Vous avez contacté Colline Serrault qui est intéressée par ces questions. Et...
Oui, parce que finalement... C'est, nous, à Arborescence, un peu, notre ADN, c'est un peu la filmographie, quoi, l'œuvre de Colline Serrault. C'est-à-dire qu'on a tous été assez touchés par le film La Belle Verte, qui est devenu un film culte. Voilà. Et puis aussi, Solution locale pour un désordre global. Elle a fait beaucoup de choses qui allaient toujours dans la même veine et qui correspondent exactement à ce qu'on fait, à ce qu'on veut faire, nous. Et donc, même quand on parle entre nous, on fait référence. On fait référence souvent à Colline Serrault. Alors, moi, je lui ai envoyé un courrier. Comme elle est très prise, je savais qu'elle était là au mois d'août. Je lui ai envoyé un courrier. Finalement, c'est à partir de cette lettre-là qu'on a réussi à se rencontrer. Et elle a lu nos deux premiers numéros du journal Amarante. Et là, il y a une relation qui se crée et avec beaucoup d'affinité. Et voilà. Donc, on a un sentiment d'amitié pour elle, que j'espère partager, je crois, et c'est à partir de cela qu'elle a dit, écoutez, même si les conditions ne sont pas très bonnes, parce que c'est à l'extérieur, elle chante en général en église, donc elle a fait vraiment l'effort, et puis elle n'avait pas de pianiste, on s'est débrouillé pour trouver un pianiste la dernière minute, voilà, on a collaboré ensemble, vraiment, pour trouver des solutions, qui fait qu'on s'est frotté un petit peu, et née une relation amicale, voilà.
Allez-y, Françoise, peut-être sur le répertoire notamment qui sera chanté.
En fait, pour revenir sur la personnalité de Colline, ce qui nous interpelle aussi, ce qui nous plaît, c'est que c'est une femme qui a beaucoup de convictions. Et nous, on a beaucoup de convictions aussi, donc on admire aussi son côté résistant. C'est une belle personne. Quoi. Et on est super contents qu'elle soit avec nous. Voilà, pour la fête de la tomate.
peut-être qu'elle sera présente notamment pour chanter, mais également pour participer au débat de l'après-midi, donc avec les personnes qui seront là. Peut-être juste sur le répertoire, tout simplement, qui sera joué. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les personnes qui nous écoutent?
Alors, comme moi j'étais au concert dans la chapelle de Manas. Elle a chanté du chant religieux, quoi, des chœurs religieux, notamment Victoria. Moi, j'aime beaucoup Victoria. Du Handel, Voilà. Mmh. Du Bach. C'est de la musique classique. Hein. Mmh. Voilà. Mmh. Musique classique. Et aussi des chants traditionnels géorgiens, des chants traditionnels italien, puisque Funiculi, Funicula. Voilà. Et puis, voilà, c'est son répertoire. Alors, deux voix, elles seront à deux, plus un piano.
D'accord. Voilà. Très bien. Donc, à partir de le concert, à partir
donc,
de 20h30.
Il y aura Colin Serrault, Rita Kazarian.
Oui. Kazarian.
Voilà. Et le pianiste.
D'accord. Dimitri.
Voilà.
Dimitri, le pianiste. Très bien. Donc, ce sera, le concert sera à partir de 20h30. Et puis, juste
20h,
à partir de 20h.
20h.
Et on le rappelle, à partir de 14h, l'ouverture de cette fête.
Ouais. Alors normalement, on va sûrement avoir de la chance, c'est que la canicule s'arrête jeudi, et après on a un vent frais, et un peu d'orage je crois, et samedi il fera très beau et il fera frais. Donc ne vous inquiétez pas sur le début à 14h, bon s'il fait un peu chaud, on commencera un peu plus tard.
D'accord.
On décalera, c'est-à-dire on va... Comme c'est notre première fête, on va être obligé d'ajuster et d'assouplir notre programme en fonction des conditions climatiques.
Bien sûr. Ouais.
Mais le parc de la Baume, il est superbe parce qu'il y a quand même pas mal d'ombre.
Oui.
Donc même si on commence à 14h, je pense qu'avec une trentaine de degrés, on devrait y arriver.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on va mettre l'espace conférence ou débat sous les arbres. Voilà.
Très bien. Peut-être pour mieux comprendre ce qui se voilà, quelle est cette association Arborescence qui est à l'initiative de cette fête de la tomate à Dieulfi. À la base, peut-être racontez-nous comment est-ce que cette association est née. Donc il y a un an, à la base c'est une centrale d'achat, un groupement d'achat éthique. Vous l'aviez lancé comme ça à l'origine.
Alors
en tout cas.
Au début, on a pensé pour l'amorce achat groupé. Et donc, mais ce n'est pas du tout notre activité principale, mais on a quand même fait 5 campagnes d'achat groupés depuis qu'on a débuté. Et donc, notre but, c'est de ravitailler nos adhérents avec des produits locaux. Donc, on a fait les pommes, on a fait les noix, le miel,
l'huile,
les céréales de Bordeaux, par exemple. Donc voilà, on essaye vraiment d'être local, on essaye de répondre aux demandes des producteurs qui se retrouvent avec des produits dont les coopératives ne veulent plus parce qu'elles ont des tâches ou elles n'ont pas le format standard. Ça pose quand même de gros problèmes de se retrouver avec une production sur les bras dont les grossistes ne veulent pas parce que ils répondent plus au catalogue parfait du...
Ça fait partie des incohérences que vous soulignez
tout à l'heure.
Oui,
ça crée quand même des situations assez tendues chez les producteurs. Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux à la disposition de tous ces producteurs, parce qu'ils s'en sortent justement, parce qu'ils lancent des messages appels d'alerte sur les réseaux, et qu'il y a beaucoup de gens qui répondent.
Mmh. Vous proposez aussi une revue, donc il y a deux numéros qui sont sortis, qui s'appellent Amarante.
Oui.
Donc vous y parlez d'agriculture locale, mais pas seulement.
Oui, c'est-à-dire que nous, Arborescence, on a quand même, de par notre réflexion, une approche globale. C'est-à-dire l'agriculture est le pilier parce que c'est l'alimentaire, c'est la base de la pyramide de Maslow. Quoi. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais disons c'est la base de la survie. Mais pour nous, la question de l'agriculture enclenche d'autres réflexions sur la monnaie, sur l'histoire des révoltes paysannes. Ça, Françoise pourra en parler parce que c'est sa spécialité. Et donc, nous, on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse, on va pas dire de l'éducation populaire. Il y a un peu d'éducation populaire, c'est-à-dire faire parler pas à travers notre plume des philosophes, des intellectuels. Voilà.
Autour des questions qui vous intéressent. Mmh. En tout cas, oui.
Bah, il nous semblait que la revue elle est arrivée à point pour étayer encore plus notre pensée, en fait. Et ça nous fait encore plus réfléchir. Et la revue, c'est un moment de régal pour nous.
Très bien. J'imagine que le troisième numéro est en préparation.
Alors, on a fait les deux premiers numéros. On va plus vite que ce qu'on prévoyait. On prévoyait un numéro par tous les deux mois. Et finalement, là, on a fait un numéro presque l'un à la suite de l'autre. Et puis, l'autre est en préparation. Mais on va attendre que la fête passe pour pouvoir se retrouver. Parce que là, on est tellement pris par ça. Mais je voudrais dire juste un mot sur le titre. Amarante.
Oui, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, Amarante. En fin de compte, l'Amarante, on a repris une histoire assez intéressante. C'est quand Cortés est arrivé au Mexique, il a interdit l'amarante, qui était la plante sacrée des Mayas et des Aztèques. Il l'a interdite alors que c'était la base de l'alimentation de cette population indigène. Et l'ayant interdit, ils ont continué à faire pousser l'amarante dans les montagnes, dans les coins reculés. Donc elle a continué à perdurer. Ensuite est arrivé 5 siècles, les héritiers, on va dire, symboliques, les héritiers de Cortés, qui sont arrivés avec le glyphosate. C'est-à-dire, on tue tout pour faire... Et on ne peut semer que ce qui résiste au glyphosate. Donc, des semences hybrides avec mutations, etc. GM. Et la seule plante qui résiste au glyphosate, c'est l'amarante. Et on a tellement aimé ce retournement de l'histoire qu'on ne pouvait appeler notre revue que par ce nom-là. Mmh, voilà.
D'accord.
C'est un beau symbole, en fait, l'amarante.
Oui. Mmh, ouais. De mieux comprendre ce dont vous parlez, notamment dans cette revue Amarante. Vous avez parlé du Mexique, la tomate est notamment un fruit ou un légume, d'ailleurs, le débat est ouvert, qui vient à l'origine du Mexique et du Pérou avant d'arriver en Europe au XVIe siècle.
Ouais.
Cette fête de la tomate, j'imagine que c'est également l'occasion de, pour les personnes qui s'y rendent, de découvrir votre association et votre revue, notamment, oui. J'imagine, qui sera sur place.
Oui.
Vous allez, l'idée, c'est d'avoir des adhérents, que des personnes adhèrent à l'association à l'issue de, en tout cas, vous connaissent et participent, rentrent dans l'association, en tout cas.
C'est très clair. Nous, notre démarche, elle est pour faire connaître notre association et qu'on ait plus d'adhérents. Et le fait qu'on fasse ces débats et que la revue permettra aux gens de mieux appréhender qui nous sommes.
Voilà, donc c'est vrai qu'arborescence, c'est un cheminement qu'on a depuis un an, donc on explore, hein. On est sûr de rien, mais on aime bien tout ce qu'on fait et on continue d'élargir notre panel. Et donc c'est vrai que pour nous, c'est important qu'il y ait beaucoup de gens qui s'intéressent à nous, enfin notre réflexion, qui nous rejoignent dans notre réflexion. Et par là même qui adhère, parce qu'on fonctionne beaucoup aussi avec des points relais dans divers endroits de la Drôme et de l'Ardèche, et ça fonctionne bien, donc on aimerait étoffer notre réseau.
Mmh. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Mangal et Françoise Hoffmann d'être venus à ce micro parler de cette fête de la tomate du samedi 26 août. Donc peut-être résumer pour les personnes qui ont rejoint l'émission, si vous êtes intéressé par la résilience et peut-être la résistance alimentaire, enfin tout ce qui touche autour de l'assiette locale notamment, mais pas seulement, venir en discuter avec des productrices et des producteurs et puis d'autres consommatrices et consommateurs, venez le samedi 26 août au Parc de la Baume de Dieulfi à partir de 14h.
106.6 à Dieulfi, c'est Radio-là.
Radio-là.